Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Champ Libre à saison 3, épisode 6. On reçoit aujourd'hui l'écrivain Jean-Baptiste Delamo. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Qui va nous proposer une de ses sélections autour du cinéma, autour de la musique. Pas de littérature ici parce qu'on est à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et quand on y trouve surtout des disques, des films et puis aussi des ouvrages sur la danse. Si à la lecture de ton dernier roman, La Nuit Ravagée, qui est paru chez Calimard l'année dernière, Dans la Blanche, mais c'est un livre très noir, très sombre, infernal presque, on pourrait dire, eh bien, on arrive à se rendre compte ce que tu écoutais comme musique et ce que tu regardais comme film à l'âge de 15 ans, de 10-15 ans. Mmh. C'est sûr, ils sont assez présents, ces films de genre plutôt, autour de Carpenter, de Cronenberg ou de Wes Craven par exemple. Eh bien, on connaîtra probablement à la fin de l'émission, les œuvres artistiques et culturelles qui t'ont accompagné après l'adolescence. Alors, je le disais, le genre, l'horreur, l'épouvante sont au cœur de ce dernier roman. C'est à travers peut-être ça et Shining que tu as pu faire tes premiers pas dans les littératures de genre, j'imagine.
Ça et Shining font partie des œuvres effectivement qui ont compté dans mon adolescence et qui toutes deux sont signées par le maître Stephen King. C'est surtout à lui que je dois ma découverte du genre à l'adolescence.
D'autres maîtres au cinéma cette fois t'ont créé des terreurs sûrement, mais en VHS à cette époque-là. Wes Craven, je le citais avec ses Griffes de la Nuit, Cronenberg et La Mouche, Carpenter et Halloween et surtout The Thing, évidemment. Mm-hmm. Et puis on n'oublie pas La Nuit des Morts Vivants de George Romero qui est bien présente aussi dans La Nuit Ravagée. Alors ça nous présente ce roman que je vais citer maintenant parce qu'on va y revenir assez régulièrement dans cette découverte de tes goûts musicaux et cinématographiques. Elle nous présente d'abord quatre potes, comme ça, Alex, Max, Mehdi et Tom, qui sont vite rejoints par une cinquième du club, c'est Léna, qui sont aux prises, tous les cinq, avec des tourments entre harcèlement scolaire, racisme, violence familiale. On retrouve aussi les décès de proches ou de moins proches dans le début du roman. Et puis, les découvertes toujours compliquées de la sexualité dans une ville de province au début des années 90. La crainte d'une maladie contagieuse de sida qui fait des ravages mortels à l'époque. Aussi. C'est le début des années 90, je le disais, de 1993 à 1995, en gros.
C'est cette
période-là. Alors, on s'emmerde pas mal, quand même, à Sainte-Hoche, qui est une ville fictive, mais pas forcément très très loin de la réalité, il me semblera. On va en reparler avec toi. On est entre le lotissement de la rue des Acacias, le centre commercial un peu défraîchi, le lycée et les serres, là, les serres importantes. Et pas que parce qu'on y passe des moments à fumer des joints entre potes, à écouter la radio où passent des tubes de Nirvana, des Red Hot ou de Scorpion, mais une menace plane comme ça. Il y a une menace qui est vraiment là, qui est sourde au début, qui puis va s'amplifier jusqu'à devenir incontrôlable pour les personnages. C'est au bout de l'impasse des Ormes, comme Elm Street dans les fameuses Griffes de la Nuit de Wes Craven, là où Freddy Krueger va semer la terreur à l'intérieur des rêves et puis à l'extérieur des rêves. Vous voyez que là, on est vraiment très près. Celles et ceux d'entre vous qui avaient lu La Nuit Ravagée, vous reconnaissez un petit peu l'ambiance. Cette maison abandonnée, elle va se transformer au fil d'un récit angoissant. Elle va se transformer en un lieu qui va être à la frontière entre la réalité, les rêves, les fantasmes. Une sorte d'entre-monde lugubre, on peut le dire comme ça. Est-ce que si on a choisi, si on souhaite quelque chose, si on désire quelque chose, elle va vous exaucez cette maison, et c'est pas forcément un cadeau. On pourrait croire que c'est super, mais c'est pas si super. La maison devient vite une drogue, et ce qui s'y passe a de nombreuses conséquences sur la vie de la bande des cinq et celle de leurs proches. Alors, en 1995, Jean-Baptiste Delamo, toi tu as 14 ans, tu vis pas très loin de cette ville imaginaire Sainte-Hoche, près de Toulouse, donc. Quelle part de toi on trouve, en fait, dans ce roman-là? Beaucoup, en fait.
Ah oui, je pense la totalité de l'adolescent que j'ai été. Ça ne veut pas dire la totalité de ce que j'ai vécu, loin de là, mais de ce qui m'a traversé, de ce qu'ont été mes rêves, de ce qu'ont été mes peurs, de ce qu'ont été mes désirs dans ces années-là, se retrouve dans ce roman. Et je pense que c'est aussi des peurs, des désirs et des rêves qui étaient partagés par une grande partie de ma génération.
Il y a une phrase qui va ouvrir comme ça La Nuit Ravagée, c'est « J'écrirai quelque chose là-dessus », pensa-t-il, sachant qu'il ne s'agit là que d'un songe nocturne, d'une pensée née du rêve. Ça marche très très bien avec le roman, évidemment, c'est un bon choix forcément. Est-ce que toi aussi tu as visité cette maison ?
J'ai visité cette maison d'une certaine manière, puisque dans le lotissement dans lequel j'ai grandi, qui était aussi le lotissement déjeuner, comme s'appelle le lotissement du roman, se trouvait une maison abandonnée, qui était un des premiers pavillons à avoir été construit dans le lotissement dans lequel mes parents s'étaient installés. Et cette maison abandonnée nous intriguait. Elle n'exerçait pas sur nous la même fascination que celle du roman sur les adolescents de la petite bande, mais quand même elle nous intriguait au point qu'un jour on a décidé d'en passer la porte. Et on a découvert un intérieur qui était resté comme figé dans les années 70-80, où la table était encore mise, les brosses à dents étaient dans des gobelets dans la salle de bain, les lits des enfants étaient à peine défaits. On a eu l'impression que la famille s'était volatilisée du jour au lendemain. Et pour nous, dans ce territoire qui était un territoire normalement de sécurisant, qui était celui dans lequel des familles vivaient, qui était le territoire de l'amour, de la famille, de la sécurité, une famille avait disparu. Et ça avait quelque chose de fascinant et d'effroyable à la fois.
Évidemment, on est dans la réalité là, et puis ça va partir dans quelque chose de beaucoup plus effroyable que ce que toi tu as pu vivre.
Oui.
En vérité, tout de même. Quand on est comme ça, ou quand on grandit dans une ville à la périphérie de Toulouse, où on est dans des lotissements comme ça, on s'ennuie fermement. Hein, ça, c'est ce qu'on comprend bien dans le roman. C'est vrai aussi. Et comment on lutte contre cet ennui-là ?
L'ennui était en effet une part de nos adolescences. On n'avait pas Internet à l'époque, évidemment. Il n'existait pas de téléphone portable, ni de réseaux sociaux. Donc l'ennui faisait partie de nos vies. Et il fallait sans cesse trouver des subterfuges et des idées pour tromper l'ennui. Et ça, c'était une chance inouïe aussi, finalement, de s'ennuyer. Parce que pour tromper l'ennui, on devait inventer des choses. On devait inventer des histoires à vivre ensemble. On devait lire des livres. On devait regarder des films. Chercher ce qui nous divertirait. Chercher ce qui rendrait nos vies peut-être plus intenses. Et je crois que c'est en partie comme ça que mon imaginaire aussi s'est développé.
Est-ce que, par exemple, la découverte à la radio, comme ça, en se baladant sur la bande FM, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, on n'allait pas de YouTube en YouTube, évidemment, il n'y avait pas de YouTube.
Ah non, clairement pas. On n'avait pas Spotify non plus. Quand souvent, on avait des cassettes déjà. Donc les cassettes, tu ne pouvais pas zapper d'un morceau à une autre. Généralement, tu écoutais l'ensemble, tu considérais l'œuvre musicale, l'album ou la cassette comme un ensemble. Donc tu l'écoutais du début à la fin. Éventuellement, tu pouvais faire avance rapide ou pause ou retour. Mais voilà, généralement, tu l'écoutais. Et puis sinon, c'était la radio. C'était les morceaux qui passaient à la radio. C'était ce qu'on entendait dans la voiture des parents en allant à l'école ou aux courses ou au supermarché. Et c'était ça la bande son de nos adolescences.
On essaie de s'amuser comme on peut. I Feel Stupid and Contagious est en train de nous dire Kurt Cobain. Là, vous avez reconnu évidemment toutes et tous ici. C'était Nirvana, c'était leur deuxième album. Tu le découvres en temps réel en 1991 à l'âge de 10 ans ou un peu après ?
J'ai pas de souvenir précis. Je sais que je l'ai forcément découvert par la radio puisque mes parents n'avaient pas d'album de Nirvana à la maison. En revanche, je ne parlais pas anglais à l'époque, donc le sens des paroles m'échappait complètement. Ce que je ressentais, c'était, je crois, la mélancolie en fait de Nirvana. Pour moi, c'est associé à des soirées où j'écoutais ça en ayant mon casque vissé aux oreilles, en pensant à ce que l'avenir pouvait me réserver, avec à la fois un mélange de crainte et de désir. Donc c'est vraiment la musique de Nirvana, pour moi, elle a la matérialité de l'adolescence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand tu passes ce morceau-là, je suis incapable de l'écouter comme si je le découvrais. Je le découvre et je le ressens avec mon corps d'adolescent presque, ou ce qui m'en reste en tout cas.
Si tu as ce point commun avec les personnages, sans doute, c'est peut-être, en tout cas moi, j'ai cette impression-là, que chez les personnages, il y a un refus de la désillusion. Ils ne veulent pas être désillusionnés, en fait. Ils veulent garder une sorte de fraîcheur, de vivacité, et ils ne veulent pas se faire abaisser par des personnages autour d'eux qui, les adultes, en fait, sont tous soit en proie à des échecs sentimentaux, professionnels, des séparations, et pour fuite, ils ont quoi ? L'alcoolisme, ou alors rejoindre une secte, par exemple. Est-ce que toi, tu avais ce genre de panorama autour de toi, dans les maisons avoisinantes ?
Ça faisait partie du paysage, effectivement. On avait surtout, je crois, l'image de parents qui ont fait partie d'une génération qui a été celle qui a connu 68, qui a connu des idéaux, qui a connu une révolution sociale, et qui pourtant, malgré tout, ont été rattrapés par la réalité et qui sont rentrés de manière contrainte et forcée dans le moule économique et social. Et nous, adolescents, on avait envie de rêver. On avait envie d'avoir le droit d'aspirer à autre chose. Et pourtant, on sentait qu'on était plus ou moins conditionnés et en partie condamnés à reproduire le même schéma de vie. Et donc, il y avait quelque chose de très conflictuel en nous. On voulait pouvoir encore rêver d'autre chose.
Tu vois, tu avais des modèles déjà, peut-être Kurt Cobain et Nirvana sans doute, mais d'autres autour, dans des bouquins déjà que tu commençais à dévorer peut-être ?
Non, je manquais beaucoup de modèles justement. Je manquais de modèles positifs pour me construire, en particulier me découvrant jeune homosexuel, vivant en province dans les années 90. Les modèles qui m'étaient proposés, c'était souvent des modèles négatifs. Et je peinais à comprendre quel rôle je pourrais jouer dans ce monde, quelle pourrait être ma place. Heureusement, la littérature m'a offert une ouverture, mais j'ai clairement manqué de modèle. Ouais.
Tu as commencé à écrire très très jeune, en fait, bien avant d'être publié, ça c'était en 2006, les premières publications, peut-être avec les premières nouvelles, mais bien avant ça, toi tu écris dès adolescent des romans d'épouvante déjà ?
Alors, j'ai commencé à écrire vers 11, 12, 13 ans. J'ai le souvenir précis du premier roman que j'ai écrit, puisque je me souviens rentrer du collège, je devais être en 6e, et me mettre derrière l'ordinateur et découvrir presque avec une forme d'ivresse que lorsque j'ouvrais le document Word pour écrire mon texte, j'avais la possibilité d'accéder à une autre réalité, de me soustraire à la mienne. Et finalement, c'était déjà quelque chose que me proposait la lecture, mais je m'apercevais qu'en écrivant, et souvent en essayant de singer et d'imiter les livres qui me plaisaient, je pouvais reproduire cette sensation de dissolution de moi, en fait, où je m'absentais de ma vie pour en habiter une autre. Et comme je lisais beaucoup de littérature fantastique et horrifique à ces moments-là, je pense que mon premier élan, ça a été de reproduire ce type de récit. Ouais.
L'adolescence, on le sait, c'est une période difficile pour tout le monde, en fait. C'est une période de transformation physique. On a un peu honte de soi parfois, on n'arrive pas à trouver sa place dans la société. Et les films d'horreur, les films d'épouvante ont réussi à capter ça aussi. On le voit dans des films comme Halloween, par exemple, où il y a question d'adolescence comme ça, et puis de monstres qui rôdent, qui est dans le coin. Ton adolescence, tu l'as vécu, tu le sens plus difficilement que tes petits camarades de classe de l'époque ?
Oui, inévitablement. Je crois qu'on, quand on se construit, quand on grandit avec une différence, on fait inévitablement l'expérience d'une forme de solitude presque inaliénable. Et donc, il faut apprendre à se construire avec ça, avec le sentiment d'être différent. Et en plus, parfois, moi, ça a été mon cas, avec le sentiment de grandir dans une société qui rejette tout ce que vous êtes, tout ce que vous incarnez. Grandir en tant qu'homosexuel dans les années 90, c'était aussi grandir dans la honte. C'était devoir apprendre à mentir très tôt, à se dissimuler au regard des siens, de sa propre famille, de ses parents, de ses camarades. Donc c'était une solitude presque insondable. Et puis ces années-là, elles ont été traversées de manière peut-être plus générale par les adolescents de ma génération, par des peurs communes. par des motifs communs. Et je crois que le cinéma d'horreur, en particulier celui de ces années-là, il avait cette puissance un peu mystérieuse pour nous, parce qu'on n'était pas forcément capable de l'analyser ou de la verbaliser, mais de donner forme à nos peurs, de nous montrer sur l'écran les peurs qui nous traversaient.
Alors si j'ai déjà cité les films des années 1970 que toi tu découvrais en VHS, on va faire un bond dans le temps assez assez prodigieux et on va se retrouver dans les années 2000-2010 avec un film là aussi d'épouvante, là aussi qui traite de l'adolescence et des transformations. Là c'est pas forcément le sida que ça évoque, quoique peut-être quand même si. En tout cas au moins quelques maladies qui peuvent provoquer la mort. Donc oui, peut-être le sida effectivement. On écoute un extrait d'une bande originale de film et puis on en reparle juste après avec Jean-Baptiste Delamo. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de bande son peut-être à La Nuit Ravagée. Moi je me la suis faite un petit peu en lisant le roman et ça ressemblait un peu à ça par moment quand même. Ouais. Disaster Piece, c'est l'artiste, c'est la BO de quoi ça?
Alors ça c'est It Follows, le film de David Robert Mitchell. Alors sur cet album, il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est Detroit. C'est un morceau tellement mélancolique et sublime, mais c'est une très belle bande son. Et c'est probablement le film d'horreur que j'ai préféré ces 15 dernières années. Parce que c'est un film d'horreur, mais c'est un film d'une grande beauté et d'une grande mélancolie.
Et c'est vrai qu'il y a des moments où on croit vraiment que c'est des photographies qui sont faites comme ça, ou même des peintures parfois, avec cette jeune fille qui, son petit ami lui l'avoue, on a eu une relation sexuelle ensemble, je te préviens quand même, mais là, depuis que c'est arrivé, il y a une personne qui me poursuit, donc j'ai voulu coucher avec toi, et maintenant, c'est toi, en fait, qui est maudite, qui est poursuivie. Et c'est une traque sans fin et sans merci, en fait, dans un Détroit complètement ravagé, parce que la ville a été détruite par les diverses crises économiques. Et c'est encore plus dramatique, plus effrayant, finalement, que d'imaginer le lotissement des Acacias, quand même.
Oui, Détroit, c'est une ville déjà éminemment cinématographique, mais aussi en partie dévastée. Et il y a énormément de quartiers résidentiels qui sont réduits à l'état de ruines ou de maisons abandonnées. Et donc, il s'en dégage quelque chose de spectral. Et David Robert Mitchell, il a parfaitement saisi à la fois le Détroit qui subsiste aujourd'hui, avec certains quartiers résidentiels qui sont encore en état, et puis cette espèce de frontière que peu à peu les personnages vont traverser en essayant de remonter le fil de cette malédiction. Et ils vont traverser le Détroit délaissé, le Détroit abandonné. Et le film prend une dimension beaucoup plus fantomatique au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire. C'est un film qui parle de manière brillante de la solitude des adolescents, de la peur de passer à l'âge adulte et de cette forme de désillusion qui nous a tous et toutes traversés à un moment donné de nos adolescences.
Les films que tu as choisis parlent certains de l'enfance, d'autres de l'adolescence. Shining, je le cite déjà, on finira avec tout à l'heure peut-être, ou dans pas longtemps d'ailleurs. Là, on voit ce que c'est que ce film de la folie d'un homme qui est complètement brûlé de l'intérieur. Un autre film que tu as choisi, c'est Gummo de Harmony Korine, dont je ne propose pas d'extrait maintenant. J'aurais pu mettre un morceau de Roy Orbison, ça aurait été très bien, un Crying de Roy Orbison.
Oui, c'est un film donc, qui se passe dans une petite ville de l'Ohio, ville dévastée par une tornade, et où on va suivre à la fois le parcours d'un gamin, Gummo, mais aussi toute une galerie de portraits un peu de outcast, de redneck, de white trash qui vivent dans ces espaces-là. Et qui sont pas des espaces dépourvus de poésie. Ils sont certes pas dépourvus de violence et de misère humaine, mais il y a aussi une poésie qui existe et Harmony Korine parvient magnifiquement à la retranscrire. Et la façon dont ce gosse se construit, dont ses personnages sont montrés, la façon dont le film compose entre le documentaire très viscéral et la narration et la fiction, ça en fait une œuvre unique. Gumon, alors Harmony Korine a fait d'autres films que j'aime énormément, comme Julian Donkey Boy par exemple, mais Gumon, c'est peut-être celui qui m'a le plus touché, et en particulier pour celles et ceux qui l'ont vu ou qui le verront, j'aime énormément l'ouverture où Gumon raconte le passage de la tornade et en fait ce que ça a fait sur leur vie, que cette tempête ait tout détruit. Que des vaches se soient retrouvées dans les arbres, qu'est-ce qui reste après une telle dévastation ?
Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir, ces personnages, s'ils existent vraiment ? Certains sont vraiment des pris de leur élément naturel, d'autres sont des comédiens ici.
Oui, c'est souvent des comédiens amateurs, je pense la quasi-totalité hein, d'ailleurs. Et c'est souvent des gens qui ont une capacité à livrer quelque chose d'une intensité et d'une vérité, parce que justement, ils n'ont pas la conscience du cinéma. Ils n'ont pas la conscience de la caméra. C'est comme quand vous filmez un enfant pour la première fois. Très souvent, ils délivrent quelque chose parce qu'ils ont pas ce surmoi qui pourrait les empêcher face à la caméra. Très rapidement, ils ne la voient pas, ils ne la voient plus, et ils donnent quelque chose de très vrai, qui peut disparaître tout à fait dès le deuxième film, où là, ils sauront ce qu'ils font.
Dans ce film Gumon de Harmony Korine, il y a de l'humour, même s'il est un peu... on rit un peu jaune parfois, même. Dans La Nuit Ravagée aussi, j'ai décelé quelques moments assez amusants quand même dans les vannes qu'ils s'envoient, les gars et filles du roman. Et puis aussi, ils savent qu'ils sont différents, en fait. on le voit directement, en fait.
Ouais, je pense qu'ils ont sans doute une conscience de ce qui les lie, de ce qui parfois peut les différencier aussi. Et puis c'est un livre, qui est traversé par de l'humour, par de la poésie, par une forme de beauté. Et pour moi, tout ça n'est pas du tout incompatible avec le fait d'écrire un roman horrifique. Je pense pas que l'horreur soit réductible au gore ou au trash. Non, il y a de très grands films d'horreur, comme il y a de très grands livres d'horreur, qui peuvent aussi être des livres qui nous font traverser des émotions extrêmement complexes. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When you D up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete.
Les Fugees en 1996, l'album c'est The Score. Des Américains nés du côté d'Haïti, en tout cas leur famille venait d'Haïti, ils étaient de New York, ils sont un peu allés en Californie ensuite. Étonnamment, avec un sample très léger, les Delphonics à l'origine, Ready or Not, et puis c'était froid quand on écoute les paroles, ce qui était peut-être pas le cas de Jean-Baptiste Delamour quand il était plus jeune, le début c'est Ready or Not, Here I Come, c'est... Que tu sois caché ou pas, j'arrive. C'est un peu comme une partie de cache-cache. Sauf qu'en fait, là, on parle plutôt d'atrocité, de guerre, de guerre civile. Haïti, de 90 jusqu'à aujourd'hui, et même avant, c'était horrible. Il y a ce côté-là un petit peu ambivalent aussi dans ce roman La Nuit Ravagée. C'est que on est dans un véritable roman d'épouvante, d'effroi, qui respectent les codes ou pas, des fois qu'ils ne respectent pas, mais qui nous présentent des personnages qui ont vraiment les pieds ancrés dans la réalité. C'est toujours le cas avec tes romans, avec ton univers, Jean-Baptiste. Tu essayes toujours de placer du vrai dans de l'imaginaire.
Je pense que c'est le cas pour la littérature de manière générale. Mais pour ce livre-là, c'était important pour moi d'avoir un véritable ancrage social parce que je voulais, avant d'écrire un roman horrifique, je voulais dire quelque chose des années 90. Je voulais transmettre une émotion, une sensation qui était liée pour moi à l'expérience d'avoir grandi dans ces années-là. Et puis dans un territoire très particulier qui était celui du lotissement. Et là, très rapidement, j'ai compris que la façon la plus fidèle, la plus honnête de le faire, c'était en utilisant le prisme du genre, parce qu'il avait été très important durant mon adolescence. Non, et puis pour rebondir sur les Fugees, évidemment, moi à l'époque, je ne comprenais pas du tout les paroles. Pour moi, les Fugees, c'est lié à un été particulier. C'est un album qui, je crois, reste un des plus grands albums de rap jamais produits, qui m'a permis de découvrir le rap américain, que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Et pour moi, c'est lié à des images où je fumais des clopes en cachette le soir au Vélux de ma chambre, en réfléchissant à ce qu'était ma condition d'adolescent. Donc voilà, c'est encore une musique un peu comme Nirvana qui a baigné mon adolescence. Ouais.
Dans les Fugees, on connaît Lauryn Hill dans sa carrière solo après. Hein, c'est une fille, deux garçons, les Fugees. La bande des cinq de La Nuit Ravagée, c'est quatre garçons, une fille. Lena, Magdalena Mancini, par qui va arriver un peu la résolution, peut-être pas, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment une résolution à ce roman, mais en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a un dépassement aussi qui se fait. Grâce à elle, je veux mettre un peu en exergue ici ton refus du patriarcat comme il est imposé à toutes et tous, que ce soit les garçons et les filles d'ailleurs, à travers le personnage de Brice Lagarde, là, le tortionnaire qui va humilier un des personnages. Et c'est souvent par les hommes dans ce roman et dans ta carrière d'écrivain aussi que le mal arrive, que le mal se transmet.
Oui, parce que je crois que c'est un des fondements de notre société, la question de la violence patriarcale. C'est une violence systémique qui est à peu près propre à la quasi-totalité de nos sociétés. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé en tant qu'écrivain, et puis de manière beaucoup plus inconsciente dans la façon dont je me suis construit aussi. Je me suis me sentant différent, me sentant à côté. J'ai pendant très longtemps eu énormément de mal à créer un lien ou une complicité avec des hommes que je sentais incarner justement ce qu'était le stéréotype du patriarcat ou de la masculinité. Je me sentais complètement à côté de ces modèles-là et c'est quelque chose qui m'a interrogé et qui m'a défini aussi, parce que voilà, inévitablement on se demande comment on se construit en tant qu'homme aussi quand on est adolescent. Et à travers mes romans, j'ai beaucoup interrogé la question de la transmission de la violence, en particulier des pères aux fils. Et c'est une thématique dont je me suis sensiblement éloigné après avoir terminé Le Fils de l'Homme, donc le roman qui était précédent à La Nuit Ravagée, qui précédait La Nuit Ravagée. Mais dans La Nuit, inévitablement, les mêmes obsessions ressurgissent d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une des thématiques qui traverse La Nuit Ravagée. Et le personnage de Léna, c'est un personnage féminin que j'ai énormément aimé et qui vient effectivement apporter dans cette bande une ouverture d'esprit, une intelligence, une audace que ces garçons-là n'avaient pas. Et tous vont tomber amoureux d'elle d'une certaine façon ou tomber en amour même amical pour cette fille qui incarne un vent de liberté.
Armée de moi-même, carrément, c'est Björk, vous l'avez reconnu sur l'album Post, choisi donc par Jean-Baptiste Delamo. tu la découvres comment, cette chanteuse islandaise? Tu la connaissais déjà dans les Sugar Cubes?
Non, pas du tout. Non, je l'ai découverte un peu plus tard, je pense, peut-être vers 17-18 ans. Là, j'ai choisi un peu ce morceau parce que je trouve que la ligne de basse est juste mythique, quoi. Elle est absolument extraordinaire. On peut pas s'empêcher de hocher de la tête en suivant le beat. Voilà, ça fait partie peut-être du moment où, au-delà de la radio, j'ai commencé à acheter des CD et donc à me faire ma petite collection de et où je comprenais que je pouvais développer une culture musicale aussi, que ça définissait une part de ma personnalité. C'est souvent un moment à l'adolescence où on comprend qu'on peut avoir des goûts propres et que ça nous définit à la fois par rapport au goût de nos parents, mais aussi par rapport au goût de nos amis. Donc voilà, c'était plus l'époque des cassettes, c'était l'époque des CD, qui était encore parallèlement l'époque bénie des VHS. Et Björk, ça fait partie de ces artistes que j'ai commencé à écouter à cette époque-là.
Des CD que tu vas emprunter, que tu vas acheter, que tu vas aussi emprunter dans des bibliothèques, là où on est par exemple ici aujourd'hui?
Alors, non, parce qu'à l'époque, autour de chez moi, il y avait des bibliothèques, mais qui n'étaient pas encore vraiment des médiathèques. Donc on ne trouvait pas forcément de CD. Je vivais dans un petit village relativement loin des magasins, donc c'était pas encore un moment où j'allais acheter des albums. Par contre, on les commandait, c'est-à-dire qu'il y avait des catalogues qui permettaient de commander des CD. Donc je pense que j'ai commencé comme ça à constituer ma première discographie, on va dire.
Avec surtout des artistes de l'époque en question, ou des choses plus anciennes parfois aussi?
Parfois des choses plus anciennes aussi, c'était assez variable. Sensiblement, au même moment, je découvrais aussi un peu les musiques du monde. J'avais des goûts, c'est resté d'ailleurs, j'ai toujours des goûts très éclectiques, c'est-à-dire que je peux écouter du classique, de la musique cubaine, du reggaeton, du rap, du rock. J'écoute énormément de musique. Et donc voilà, déjà ado, j'avais cette curiosité quand même, cette appétence pour la musique.
Dans La Nuit Ravagée, les références précises, il y en a quelques-unes auxquelles je pense comme ça. Ça va être le Rape Me de Nirvana.
Nirvana, il y a les Cranberries qui ont été très importants pour moi, qui étaient plutôt la découverte d'un rock indé un peu lyrique et là aussi assez mélancolique.
Il y a des choses qu'on écoute peut-être moins aujourd'hui, que tu écouterais moins, je sais pas, Scorpion, Wind of Change par exemple.
Ouais, même si j'ai toujours spontanément je lancerai pas la chanson, mais si je l'entends, il y a toujours un côté, je me dis ah tiens, c'est chouette de la réentendre. Oui, inévitablement il y a des choses que je n'écoute plus, mais dès qu'elles passent à nouveau à la radio ou dans un supermarché ou je sais pas, un lieu où je vais les entendre par hasard, voilà, il y a toujours ce sentiment que ça rouvre une forme de boîte qui me permet de reconnecter à l'adolescent que j'étais.
On voit qu'entre Newt, la scolopendre géante, mais qui mesure que 30 cm à un moment, hein, quand même.
Au début.
Et puis les odeurs de pollen, les odeurs des plantes, très très bien décrites, et ça c'était déjà présent il y a très longtemps dans un de tes premiers romans aussi. On sent que tu aurais pu devenir botaniste ou entomologiste en fait.
Entomologiste, très certainement, oui. Ouais. C'était d'ailleurs un vrai projet de vie pour moi. Je me souviens que quand on a pu faire les premiers, je ne sais plus dans quelle classe ça se fait aujourd'hui, mais les premiers stages en entreprise, j'ai absolument voulu faire un stage chez un entomologiste. Et donc mes parents ont réussi, je ne sais comment, à trouver le contact d'un entomologiste à qui nous sommes allés rendre visite et qui possédait dans un terrarium une scolopendre géante qui m'avait semblé une créature absolument épouvantable et fascinante. Et ce truc est resté, je pense, je n'ai aucune phobie pour aucun animal sur Terre, excepté peut-être la scolopendre. J'ai fait un stage chez cet entomologiste exactement comme le personnage de mon roman.
Cet homme qui fait
ça. Voilà, cet homme qui fait et qui va subtiliser donc un bébé scolopendre en espérant qu'il pourra l'utiliser, comme c'est un animal extrêmement venimeux, qu'il pourra l'utiliser pour se débarrasser de son beau-père une fois que la créature aura atteint sa taille adulte. Moi-même, je suis reparti de mon stage en entomologie en emportant en secret une petite mygale à l'époque. Un bébé mygalon que j'ai gardé pendant quasiment 15 ans. qui est devenue adulte, et moi je suis devenu adulte avec elle aussi, et qui a été un peu comme ça une forme de mascotte qui a traversé mes jeunes, la fin de mon adolescence et le début de mon âge adulte. Et effectivement, il y a des choses très autobiographiques aussi dans le roman, même si elles sont transformées et adaptées pour servir le projet du livre.
Non, cet attrait, ce goût pour les animaux, tu le pousses aussi dans ton engagement pour la lutte contre les violences faites aux animaux, à travers notamment l'association L214, je confonds avec un film de Bertrand Tavernier, je crois. L214, donc, mais tu veux aussi garder une frontière entre ton engagement militant et puis ton rôle et ton
si
travail d'écrivain.
La frontière, elle est inévitablement floue. J'ai découvert la réalité de la condition animale en travaillant sur un de mes précédents romans qui s'appelait Règne animal, et pour les besoins duquel j'ai dû visiter un certain nombre d'élevages porcins. Et quand j'ai découvert cette réalité-là, non seulement elle a façonné une partie du livre que j'ai écrit, mais elle m'a aussi bouleversé à titre personnel, citoyen. Et très rapidement, j'ai compris que je ne pouvais pas me contenter d'écrire un livre sur ce rapport de violence entre les hommes et les animaux, bien que ce soit, pour moi, c'est un roman qui parle plus de la condition humaine que de la condition animale. Mais il n'empêche que, voilà, en sous-texte, c'est aussi très présent dans le livre. Et donc, j'ai commencé à m'engager à titre personnel sur ces questions-là. Pour autant, la littérature, ça reste un espace pour moi qui n'a pas vocation à transmettre des messages. Je ne développe pas de thèse dans mes romans, je pose uniquement des questions. Je cherche à convaincre personne, j'ai pas de message à transmettre. Mais c'est vrai que ma position d'écrivain, qui parfois bénéficie d'un espace public, m'engage d'une certaine façon à parler de mes convictions, que ce soit en soutien à l'association L214 ou à l'association SOS Méditerranée, quand je me sens concerné par des thématiques et que cet espace de parole-là m'est donné, j'estime que c'est de mon devoir, en fait, de m'en emparer.
On va repartir dans le passé et je me posais la question, est-ce que ce choix qui va arriver maintenant d'une grande dame morte trop jeune, c'était issu de choix musicaux de ta famille? Non, c'est toi qui découvrais Janis Joplin seule.
Oui, plus tard, même si j'ai appris, au moment où je découvrais Janis Joplin, j'ai appris que mes parents l'avaient aussi écouté quand ils étaient adolescents. Mais moi, je l'ai découvert plus tard, pour le coup, vers 18-19 ans. Et immédiatement, à la fois le choc de cette voix qui ne ressemble à aucune autre, de cette chanson en particulier qui m'avait profondément touché.
Summertime, vous allez reconnaître peut-être, mais là c'est la version live, c'est sorti en 2012, c'est un enregistrement en 1968, à l'origine quand même. C'est l'époque principale traversée par les personnages dans La Nuit Ravagée, même si l'hiver est bien présent aussi. Mais là, on est vraiment en été avec Janis Joplin et Big Brother and the Holding Company. Summertime par Janis Joplin, une des sélections de Jean-Baptiste Delamo dans ce Champ Libre A, saison 3, épisode 6. On est en direct de l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et on continue à se balader dans les goûts et les découvertes de Jean-Baptiste avec cette fois peut-être un voyage au Japon. Je peux dire que tu portes un vêtement qui m'a l'air un peu japonais.
Est-ce qu'il est japonais? Que j'ai acheté à Kyoto, absolument. Et c'était pas, j'ai pas fait ça de manière intentionnelle, à vrai dire. Mais
en tout cas, c'est le cas. Et Kyoto, où tu as passé un peu de temps, mais c'est pas forcément pour ça que tu as découvert le cinéma de Mizoguchi ou de Kaneto Shindo. Là, on est dans deux films anciens. Le premier, L'intendant Sancho, date de 1954. Le second, L'île nue, de 1960. Tous deux ont pour point commun, eh bien, de raconter des histoires dramatiques, pas les mêmes du tout. Une, on se place un petit peu à l'époque médiévale avec deux enfants qui sont vendus. L'autre, L'île nue, on est aux côtés des pêcheurs qui ont une vie très très dure. Je sais pas si toi tu vois des points communs entre ces deux films là, peut-être pas, mais comment toi tu découvres ce cinéma là, ce cinéma japonais des années 50-60?
Alors assez tardivement, j'ai d'abord découvert la culture japonaise par deux biais, à la fois la littérature japonaise, en particulier à travers l'œuvre de Yukio Mishima, et puis à travers le bouddhisme zen, qui a eu une importance particulière dans ma vie et dans mon parcours. Et très rapidement, je me suis passionné pour la culture japonaise, pour l'artisanat japonais. Et naturellement, ça m'a mené vers le cinéma. Et j'ai un tropisme, une passion pour le cinéma japonais, en noir et blanc en particulier. Je trouve qu'il se dégage de ses œuvres une beauté formelle qui m'hypnotise totalement. Donc je me fais des couloirs où je vais visionner comme ça chaque soir. Je me souviens que Mizoguchi, voilà, la découverte du cinéma de Mizoguchi, ça a été... un tel bouleversement esthétique que je les ai tous vus les uns après les autres. Alors L'intendant Sancho, c'est peut-être mon préféré. C'est un chef-d'œuvre absolu d'une grande beauté et maîtrise formelle, mais aussi extrêmement touchant. Et L'île nue de Kaneto Shindo, ça fait aussi partie de mes films préférés. C'est un film qui n'est pas dialogué et qui est basé sur le quotidien extrêmement répétitif de petits cultivateurs qui se trouvent sur une île extrêmement aride du Japon. Et un couple et deux enfants dont l'un des deux va disparaître. Et c'est un film qui, dans sa construction, dans sa narration, dans sa répétition, est d'une beauté lancinante et complètement étourdissante. Et pour moi, voilà, ce cinéma-là, c'est un cinéma de la contemplation, c'est un cinéma qui prend le temps, qui ne cherche pas les effets, et qui m'a souvent bouleversé. Oui.
Donc des films un peu âpres peut-être, mais avec une grande beauté formelle.
Ça demande un effort parce que parfois les codes narratifs ou les dialogues ou les intentions de jeu ne sont pas les mêmes que dans notre cinéma. Donc ça demande parfois un temps d'adaptation pour accepter d'être un peu déstabilisé sur ces aspects-là. Mais aussitôt qu'ils sont franchis, on est inévitablement touché parce qu'il y a une force dramatique universelle en fait dans ces textes, dans ces films.
Vous qui êtes ici au Champ Libre ou qui nous écoutez, ce sera peut-être un peu trop tard pour vous qui nous écoutez, ils sont là, hein, les DVD qu'évoque en ce moment Jean-Baptiste Delamo. Vous pourrez repartir avec, les regarder chez vous et puis contacter Jean-Baptiste par la suite pour lui dire merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce cinéma japonais là. Ou alors, et là je ne sais pas s'il est présent physiquement, le film de Bellatar, là on est dans le cinéma hongrois, Satan Tango, le tango de Satan. Alors là aussi... c'est un film peut-être qui se mérite, qui se découvre pas forcément le soir pour passer un moment fun, c'est pas ça tout à fait. C'est 7h30 le film déjà, c'est des plans très très longs, il y en a que 150 a priori environ dans ce film là et là il y a aussi ce côté plastique absolument confondant.
Bellatar, qui a disparu très récemment, il y a quelques semaines, était un de nos plus grands cinéastes. Et Satan Tango, c'est une œuvre épuisante, parce qu'effectivement, elle dure 7h30. Donc je vous conseille, moi je l'avais vu en trois fois. Mais c'est un film dont on sort marqué durablement, à la fois pour la poésie du désespoir qu'il donne à voir, mais aussi pour sa beauté formelle. Bellatar, c'était peut-être le roi du plan de séquence. Il y a des passages qui sont d'une beauté qui déchire l'écran. Il y a deux films de lui que j'aime passionnément, enfin peut-être trois, Satan Tango, Les Harmonies Werkmeister, et le dernier, Le Cheval de Turin, qui est le film avec lequel il a renoncé au cinéma, parce qu'après ce film-là, il a estimé qu'il avait tout dit, tout fait, que surtout ce monde-là dans lequel nous vivons ne se prêtait plus à produire et à voir ce genre de film. Et Satan Tango comme Le Cheval de Turin, ce sont des films qui, pour moi, ont été constitutifs de l'écriture de Règne Animal. J'y ai puisé une forme d'énergie qui a nourri le livre.
Toutes et tous reconnu la bande originale de ce film. Il y a beaucoup dans ce film de chansons de Nat King Cole, et puis il y a cette musique instrumentale très très légère.
C'est quoi? Tu trouves ça léger, toi? Moi, ça me donne des frissons de l'entendre.
Bah, je trouve ça léger, je trouve ça, ça nous élève, quoi.
Ouais, c'est In the Mood for Love de Wong Kar Wai, qui est un de mes films préférés, qui je trouve est un des plus beaux films jamais réalisés sur l'amour et sur l'amour impossible, puisque finalement c'est les deux personnages ne feront jamais que se croiser. Là aussi, on est face à un plasticien extraordinaire, parce que c'est un film d'une beauté formelle incroyable. Tous les lumières, les costumes, Maggie Cheung, qui est d'une beauté incroyable dans ce film-là. C'est un film qui me donne, moi qui ai arrêté de fumer depuis très longtemps, qui me donne instantanément envie d'en griller une, parce qu'ils sont toujours en train de fumer avec des volutes qui s'élèvent vers les plafonds, et ils sont tous sublimes avec leur clope au bec. Bref, c'est un film que j'adore, et je me suis jamais senti capable de traiter l'amour dans mes livres. Alors maintenant j'ai 44 ans, je pense que j'ai peut-être un peu plus de bagages et d'expérience sur la question, c'est quelque chose qui s'ouvre un peu à moi, mais j'ai toujours été très admiratif des artistes, cinéastes ou écrivains qui parvenaient à approcher cette question-là sans le faire de manière mièvre ou naïve. Et pour moi, In the Mood for Love, c'est peut-être l'œuvre ultime, à côté sans doute de Proust et de la Recherche du Temps Perdu, qui parvient à saisir quelque chose du désir amoureux.
Le désir amoureux naissant de ces adolescents dans La Nuit Ravagée, il est bien présent, il est contradictoire, il est tiraillé aussi, notamment pour un des personnages, Max. Et puis il y a ce duo, ce double maléfique, ils sont des jumeaux en fait, c'est les Catalas, c'est Marie et puis Anthony. Il y a un côté vénéneux pour le coup, véritablement avec eux deux. Le venin, il est partout dans le roman de toute façon, mais eux incarnent vraiment ce qui va être le plus retors pour la découverte de l'amour pour Max, en fait.
Alors, traiter de l'adolescence en évacuant la question à la fois du désir sexuel, de la manière dont on construit son identité sexuelle et de la manière dont on découvre le sentiment amoureux, ça m'aurait semblé être une escroquerie. Je sais qu'il y a eu quelques critiques de lecteurs qui reprochaient au roman d'avoir quelques scènes de sexe explicites. Je crois qu'il doit y en avoir deux ou trois à tout casser dans le roman. Mais ça me semble être une évidence, parce que l'adolescence, c'est ce temps-là où on découvre ce qu'est la nature du désir. Et en particulier, c'est le cas pour Max, donc un des personnages. qui va découvrir son désir pour Anthony, donc qui est le beau gosse du lycée.
Qui lui a l'air de sortir de Beverly Hills, en fait, la série. Hein.
Bah, il sort pas de Beverly Hills du tout, puisque moi, vraiment, pour le coup, les personnages des jumeaux Catala, ils ont existé pour moi. Je les ai connus, ils étaient dans mon...
Mais ils sont pas du même côté du spectre social que...
Ah oui, voilà, c'est des gamins qui sont issus d'une famille plutôt fortunée, et surtout qui sont d'une beauté physique qui les place hors jeu, quoi, voilà, qui leur permet de surplomber l'ensemble des autres élèves. Et donc Max va faire l'expérience de la découverte de l'élan, du désir pour ce garçon-là. Et puis c'est les années 90, donc effectivement c'est des années qui sont hantées par l'épidémie du sida. Et se construire dans ces années-là, avec comme horizon celui de la menace de la maladie, c'était extrêmement complexe. Et le cinéma, d'ailleurs, de ces années-là, a aussi été traversé par la métaphore du sida, en particulier le cinéma horrifique.
Dracula a été refait à ce moment-là aussi par Coppola.
Oui, effectivement, bon, le vampirisme a été une des métaphores. La mouche de Cronenberg, à travers la transformation du corps, la monstruosité du corps. Je pense à Alien aussi, cette question du parasitisme, du corps parasité, du corps infecté. Le cinéma horrifique et le cinéma de genre a toujours été le baromètre d'une époque. C'est peut-être un des seuls genres du cinéma qui a toujours cherché à saisir quelles étaient les peurs qui nous traversaient à un moment donné, nos peurs collectives, et à les représenter à l'écran. Et je crois que c'est pour ça qu'il séduit souvent les adolescents, qu'il nous séduisait nous dans les années 90, c'est qu'il nous disait quelque chose qu'on n'était pas encore capable de verbaliser, mais de nous-mêmes et de nos propres peurs.
On arrive à la presque fin de l'émission, on a encore quelques documents à évoquer, j'ai envie qu'on retourne un peu à la musique avec une icône vraiment, Anthony de Johnson, ah oui. C'est avec une chanson là aussi d'une beauté triste mais grandiose également, Anthony and the Johnson, choisi par Jean-Baptiste Delamo.
Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, wish that I
Malheureusement, on ne va pas pouvoir l'entendre en entier.
Ah, c'est terrible.
Désolé, c'est scandaleux. Je devrais être exclu de la guilde de la radio pour ce que je viens de faire. Magnifique morceau, choisi lui aussi par Jean-Baptiste Delamo. Alors, cet artiste-là qui nous proposait cette chanson Hope, There is Someone. Oui, on espère tous qu'il y aura quelqu'un qui sera là pour s'occuper de nous à la fin.
Ouais, je me souviens de ma découverte sidérée de Anony. Maintenant, elle s'appelle Anony. De cette voix qui m'a vraiment traversé physiquement. J'ai eu la chance de la voir et de la rencontrer deux fois après des concerts. Je me souviens notamment d'un concert incroyable à la salle Playel, où quand Anony est sur scène, on a l'impression que sa voix vient de l'extérieur d'elle. C'est quelque chose de vraiment très impressionnant. Elle bouge à peine les lèvres, et pourtant cette voix parfaite, céleste, semble émaner de son corps. C'est une artiste que j'ai découvert un peu plus de 20 ans, à un moment où je m'assumais plus, en tant qu'homosexuel, en tant que jeune auteur aussi, où je découvrais l'amour peut-être pour la première fois. Et Anony, ça a été un repère, ça a été quelqu'un qui chantait à la fois la tristesse qui peut découler de l'expérience de la différence et la force aussi.
Ne ratez pas la possibilité de découvrir ce disque. Là, on va terminer avec encore deux ou trois références amenées par Jean-Baptiste. On l'a cité, Shining déjà de Stephen King. Tu l'avais choisi en adaptation qu'a pas forcément apprécié Stephen King par Stanley Kubrick. Il y avait aussi Six Feet Under, la série que tu vois plutôt comme une œuvre de cinéma. Et puis Mélancolia de Lars von Trier. On arrive à la fin, ça tombe bien de finir avec Mélancolia, parce que c'est quand même un film, une sorte de film catastrophe.
C'est un film sur la fin du monde, et comme on y assiste tout doucement, c'est toujours bon de voir ce qui nous attend d'une manière ou d'une autre. Non, plus sérieusement, c'est un film à la fois terrible, mais là aussi bouleversant. C'est pour moi le grand film de Lars von Trier. C'est un film que je revois toujours avec la même stupéfaction. Ça fait partie de ses œuvres. Quand je vois ce film, je dis j'aurais aimé être capable de livrer quelque chose de cette puissance-là.
Et Six Feet Under, en termes de série, c'est Alan Ball, 2001-2005, 5 saisons sur une entreprise de pompes funèbres, sa famille, et puis leur rapport avec la mort, finalement.
Six Feet Under, c'est pour moi la plus grande série qui ait jamais été faite. Alors, à côté de Breaking Bad, des Sopranos, il y a d'autres, mais c'est celle qui, incontestablement, m'a non seulement le plus bouleversé, mais qui m'a le plus construit aussi. C'est-à-dire que regarder Six Feet Under, c'est faire une expérience de la vie. C'est rare, les œuvres qui vous donne tant à comprendre de ce qu'est l'essence de la vie, de ce qu'est l'essence de la mort, de ce qu'est l'essence de l'amour et du désir. Alan Ball, il a réussi un coup de maître avec cette série-là, de réussir à transmettre au spectateur la matérialité de ces expériences-là et du passage du temps. C'est une œuvre immense, et pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous engage, vraiment, je vous enjoins à la regarder. Ça, vous n'en sortirez pas indemne, et vous en sortirez grandi.
On termine avec vraiment l'adaptation potentielle de La Nuit Ravagée. C'est en cours, ça va arriver, et c'est pas toi qui vas l'adapter?
Ah non, c'est certainement pas moi qui vais l'adapter. J'ai écrit le bouquin, là, c'est bien assez. Comment est-ce que je peux dire ça prudemment? C'est en bonne voie, mais je ne peux pas en parler. Voilà.
On n'en parle pas plus, et d'ailleurs on arrête d'en parler directement maintenant. Merci Jean-Baptiste.
Merci
d'avoir été des nôtres. Vous
Merci
le retrouvez encore tout le long du week-end de Jardin d'hiver. Nous on termine avec Portishead, un morceau glaçant lui aussi. Merci pour ce choix-là. Portishead en un mot.
Alors pour moi c'est pas forcément glaçant, c'est une musique assez contemplative. C'est un album que j'ai adoré, que j'adore toujours et qui l'a plutôt accompagné ma trentaine, on va dire. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamont, merci à vous. Bon jardin d'hiver à toutes et à tous ici au Champ Libre.
Wild horses, they will take.